Dans l'émission Parlons du diocèse, nous relayons de larges extraits de l'émission À la découverte du diocèse de Nîmes qui était diffusée sur KTO TV dès lundi 3 mars en soirée. Honorine Grasset recevait Mgr Brouvet pour parler de l'actualité et des enjeux de l'Église catholique dans le Gard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Est de l'Occitanie pour parler du diocèse de Nîmes qui correspond au département du Gard. Dans cette édition, on en saura plus sur la transformation pastorale et missionnaire en cours et on découvrira le projet du dispensaire Saint-Charles, un dispensaire spécial pour les gens de la rue qui doit prochainement ouvrir à l'évêché de Nîmes. Le Gard est un département de l'Est de l'Occitanie marqué par une grande diversité de territoires, de la Camargue aux Cévennes, en passant par la Provence, la Méditerranée et ses sites emblématiques de Nîmes à Uzès. C'est un territoire principalement urbain, puisque 3 habitants sur 4 vivent dans des zones densément peuplées et tiré par l'activité touristique, mais un département dont les habitants souffrent d'importantes fragilités sociales, puisque le Gard est le 6e département le plus pauvre de France métropolitaine. Et pour parler du diocèse de Nîmes, je reçois son évêque, Mgr Nicolas Brouvet. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Je viens de présenter le Gard en quelques mots. Vous pouvez peut-être compléter ma présentation, mais surtout nous présenter la vie du diocèse.
Oui, je pense que la présentation en quelques chiffres, en quelques mots, était bonne. Territoire à la fois magnifique par ses paysages, territoire de contraste aussi. Territoire attractif pour le tourisme et puis territoire où il y a vraiment des poches de pauvreté, que ça soit dans le rural ou bien dans le périurbain. Nous avons 34 ensembles paroissiaux, 95 prêtres dont 70 vraiment actifs et puis 18 diacres, une église avec un vrai dynamisme. Il n'y a pas longtemps, on a fait l'entrée en catéchuménat de 101 catéchumènes. Et puis, il y a ceux qui viennent aussi se présenter pour la confirmation. Voilà, donc une église en marche, disons.
On va découvrir quelques réalités du diocèse avec vous. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Mgr Nicolas Brouvet. Vous êtes donc évêque du diocèse de Nîmes depuis 2021. Vous êtes né en 1962 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes rentré au séminaire après des études d'histoire à la Sorbonne, ordonné prêtre en 1992 pour ce même diocèse de Nanterre. Vous avez notamment été curé à Sèvres, puis à Neuilly, avant d'être nommé évêque auxiliaire de Nanterre, où vous êtes resté de 2008 à 2012, moment où vous êtes parti à Tarbes et Lourdes. Vous avez été l'évêque de Tarbes et Lourdes de 2012 à 2021. Et votre devise épiscopale, elle vient de la lettre aux Galates au chapitre 5. Marchons sous la conduite de l'Esprit-Saint. Le Gard fait partie de ces diocèses au contact de la Méditerranée. C'est une petite bordure qui touche la Méditerranée. Vous étiez aux rencontres méditerranéennes à Marseille en septembre 2023, mais également à Tirana en septembre 2024. Qu'est-ce que cette réflexion, ces liens entre les diocèses de la Méditerranée peut apporter à un diocèse comme le diocèse de Nîmes ?
Oui, c'est une très belle réalité, voulue d'abord par des évêques italiens et puis reprise par le pape. Et confié à l'archevêque de Marseille, qui fait prendre conscience que nous ne sommes pas simplement ou français ou espagnol ou bien albanais, mais disons citoyens, si je puis dire, du bassin méditerranéen, qui est à cheval sur 3 continents, hein, parce qu'il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a aussi l'Orient avec le Moyen-Orient. On a fait ces rencontres méditerranéennes avec 70 évêques, 70 jeunes, pour connaître les réalités de mondes qui sont en fait voisins, juste séparés ou bien unifiés par la Méditerranée. Et c'est assez intéressant de voir que vraiment les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, mais que nous avons notre foi en commun. Et ça nous donne un espace assez simple, disons, pour parler, pour échanger, pour mieux se connaître. Je trouve que c'est assez passionnant. Nous, de notre côté, eh bien, on s'est surtout engagé avec l'enseignement catholique. Donc on est en train de prendre des contacts avec des écoles catholiques au Maroc pour avoir des partenariats, des échanges. On aimerait, enfin moi j'aimerais que la jeunesse du Gard, nous avons 22 000 élèves dans l'enseignement catholique, au fond connaissent cette culture de l'Afrique du Nord, culture arabe, l'histoire, la langue, la religion aussi, mais pas que la religion. Parce qu'il me semble que pour entrer en dialogue, il faut déjà se connaître. On a dans notre diocèse, et en particulier à Nîmes, mais aussi à Bagnols-sur-Cèze, à Saint-Gilles, une présence musulmane forte. Il y a 33 mosquées dans notre diocèse. Et je pense que ça nous oblige, nous, à faire un pas et puis à se dire, au fond, pourquoi ne pas mieux les connaître ? Pourquoi ne pas mieux connaître cette culture plutôt que d'en avoir peur ?
Au sein de la Conférence des évêques de France, vous êtes également membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. C'est peut-être un conseil qui n'est pas si connu que ça de nos téléspectateurs. Et vous êtes en charge de l'accompagnement des mouvements du renouveau charismatique. Je voudrais vous demander, Monseigneur Nicolas Brouvet, aujourd'hui, quels sont les critères pour discerner si un mouvement est bien positionné sur le plan doctrinal comme de son insertion ecclésiale ?
Alors, d'abord, il faut que ce mouvement le veuille. Quand on parle du renouveau, c'est un peu une nébuleuse, parce qu'il y a des communautés de vie, il y a des communautés qui ne sont pas des communautés de vie, c'est-à-dire chacun vit chez soi, il y a des groupes de prière, et puis ensuite il y a des assemblées, il y a des gens qui organisent des soirées,
des
veillées,
des
rassemblements, des week-ends, et donc le renouveau charismatique, ça n'est pas, disons, un mouvement unifié, mais c'est plutôt une dynamique interne à l'Église catholique, qui est fondée sur le baptême dans l'Esprit Saint, le renouveau dans l'Esprit Saint, le renouveau de la vie intérieure dans l'Esprit Saint. Alors, pour être bien situé, d'abord, il faut vouloir être dans l'Église. Et donc, il faut accepter aussi l'accompagnement des pasteurs que nous sommes. Chaque mouvement, chaque groupe, chaque communauté est relié à un évêque. C'est ça qui fait la catholicité chez nous. Et donc, ce mouvement...
Ça veut dire qu'aucun groupe n'est autonome, pour le dire clairement. Il n'y a pas d'autonomie dans l'Église catholique.
Et oui, parce qu'en fait, on a une communion. Ensuite, il faut accepter, du coup, que l'évêque ou son délégué relise, fasse le point, demande des comptes. Et puis, je crois qu'il faut surtout accepter d'être relié. Et puis, de professer, évidemment, la foi catholique. Ça veut dire de ne pas être tout seul, de ne pas rester enfermé, mais de vivre avec toute l'Église catholique, en lisant, en se formant, en relisant ses pratiques. C'est ça, disons, le service que nous proposons dans notre groupe d'accompagnement du renouveau, qui n'est pas fait que d'évêques, qui est fait d'un évêque et puis de membres du renouveau, de prêtres aussi qui ont été nommés pour cela, théologiens, de sorte que nous rendions ce service aux évêques de mieux connaître le renouveau et puis ce service au mouvement du renouveau d'être bien relié avec la conférence des évêques et le collège des évêques.
On va revenir maintenant dans le diocèse de Nîmes. Depuis votre arrivée il y a 3 ans, vous avez appelé à une nouvelle dynamique missionnaire dans les paroisses, autrement dit un véritable temps de transformation pastorale. Un élan qui est aussi alimenté par des temps communs de formation qui permettent d'approfondir la connaissance de la Bible, de l'Évangile. Alors, on entend cette transformation pastorale et missionnaire. Comment faire en sorte que ce ne soit pas juste un slogan ? Comment le vivre vraiment dans les paroisses ?
Oui, l'idée de la transformation, c'est que, vous voyez, il y a une rupture dans la transmission. Alors que pendant des siècles, on a eu une pastorale qui reposait sur le fait que les parents faisaient baptiser leur enfant. Et donc, ils venaient d'eux-mêmes, disons, frapper à la porte du presbytère pour demander le baptême. Alors, à partir du baptême, on avait développé toute une pastorale avec la première communion, la confirmation, puis ensuite le mariage. Et finalement, on encadrait la vie chrétienne. À partir du moment où
ces grands rendez-vous au fur et à mesure de la vie.
Exactement. À partir du moment où il n'y a plus ce point de départ, c'est-à-dire on ne vient plus demander le baptême pour l'enfant, en fait, les gens ne viennent plus. Donc, il faut aller vers eux. Et ça, c'est vraiment l'idée de sortir du pape François, aller aux périphéries, c'est-à-dire aller chercher les personnes qui ne viennent plus, aller frapper à leur porte, puisqu'elles ne viennent plus frapper à la nôtre. C'est l'idée de départ. Alors, on a pris du temps, on a pris pendant un an avec donc, les prêtres, ensuite avec des Pierre, Jacques et Jean, un peu comme dans l'Évangile, puis ensuite avec les 12, pour que cette idée suscite une dynamique nouvelle dans les paroisses et que le prêtre, avec son équipe d'animation pastorale, se dise, comment est-ce qu'on va aller au-delà des cercles habituels, comment est-ce qu'on va sortir d'une sorte de routine où on prépare les quelques baptêmes, les mariages, la messe du dimanche? Comment est-ce qu'on s'intéresse aussi aux gens qui sont autour de nous? Comment est-ce qu'on les rejoint dans leur humanité? Alors, ça, c'est un travail qu'on fait. Chaque prêtre le comprend un peu différemment. Chaque membre de l'EAP le comprend un peu différemment, les Pierre, Jacques et Jean. L'idée nouvelle aussi, c'est que le prêtre soit plus tout seul à porter la responsabilité de la mission. Mais qu'il n'est pas autour de lui simplement des gens qui l'aident. On vient aider monsieur le curé, si je puis dire. Mais des fidèles qui, par la grâce du baptême et de la confirmation, eh bien, se disent je vais réfléchir non pas simplement à mon groupe de caté ou bien à mon équipe liturgique, mais je vais réfléchir avec le prêtre à l'évangélisation, à l'annonce de l'évangile de toute la paroisse, de toute la communauté paroissiale.
Un mandat missionnaire qui est partagé par toute la communauté.
Exactement. Donc le prêtre est vraiment le pasteur propre de la communauté paroissiale. Mais les baptisés autour prennent aussi sur leurs épaules, j'allais dire, la charge de la mission. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est vraiment un partage qui vient du baptême. La grâce du Saint-Esprit, évidemment, elle est donnée à tous les baptisés. Et alors chacun, avec ce qu'il est, avec ses charismes propres, avec ses idées, avec ses grands désirs, on va essayer justement de, dans l'Esprit Saint, d'écouter ce que l'Esprit dit aux Églises et de se dire, ben voilà, où est-ce que le Seigneur nous mène ? Parce que c'est ça la vraie question.
Je le disais en introduction, le Gard est marqué par des situations de grande précarité. Il y a un dispensaire spécial pour les gens de la rue, le dispensaire Saint-Charles, qui doit prochainement ouvrir à l'évêché de Nîmes pour apporter gratuitement au son domicile fixe les soins dont ils ont besoin et qui tournera uniquement grâce à des volontaires, médecins, infirmières et bénévoles non soignants, en lien avec l'association aux captifs La Libération. Ouvrir un dispensaire au service des plus pauvres, c'est aussi comme ça qu'on est une église proche de chacun, y compris ceux qui n'osent plus passer la porte d'une église.
Oui, il se trouve que l'évêché est dans un quartier assez pauvre où il y a beaucoup de gens de la rue. Et donc on ne peut pas sortir de l'évêché sans les connaître, sans les rencontrer. Le docteur Chaume, d'ailleurs, est à mon conseil épiscopal. C'est aussi comme ça que naissent les projets. C'est parce qu'il y a aussi des baptisés autour de nous qui nous disent, ben oui, il y a vraiment un besoin, là, de remettre dans un parcours de soins les gens de la rue. Et il me semblait important aussi d'ouvrir l'évêché sur l'extérieur, parce que sinon, il peut se transformer en forteresse. Alors que là, ben, il y aura par une porte, quoi. Les pauvres entreront. Et je trouve que, oui, c'est important. C'est important que notre Église, elle se soucie déjà des gens qui sont à la porte, quoi. Ça commence comme ça. Les périphéries, c'est parfois, elles commencent sur le trottoir.
Vous avez accueilli, il y a quelque temps, il y a à peu près un an, une nouvelle communauté des religieuses de la Fraternité des Sœurs Pauvres de Jésus, originaires du Brésil. Et justement, leur charisme, c'est d'aller à la rencontre des multiples visages de la pauvreté. Ben, c'est aussi ça, être attentif à la façon dont l'Esprit parle aux églises.
Oui, 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 c'est ça. Elles, c'est vraiment leur charisme. J'ai été voir d'ailleurs à Sao Paulo. Je les ai vues un peu à l'œuvre. Et elles ont vraiment une facilité à aller vers les gens de la rue. Et les gens de la rue les accueillent avec beaucoup de simplicité. Donc du coup, elles nous apprennent aussi. Elles nous apprennent aussi comment faire.
Comment se concrétisent les deux attentions particulières que vous avez évoquées à la rentrée 2024 dans votre projet un peu pastoral ? À la fois la relation avec les églises évangéliques et protestantes qui sont très présentes dans votre département, et puis la dynamique pastorale dans les quartiers de Nîmes.
Oui, alors c'est vrai que le Gard a une histoire, parce que c'est là que les protestants se sont réfugiés lorsqu'ils ont été interdits après la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, il y a une présence à la fois protestante historique et puis présence des évangéliques aussi. On est assez proche des évangéliques par le désir missionnaire et puis la proximité des pauvres aussi. Et puis, on a de très bonnes relations avec les protestants, tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, parce qu'on se rencontre, parce qu'on fait partie de la même ville, parce qu'on, voilà, on vit ensemble. Et donc, ça, c'est vraiment une vocation qui est donnée à notre diocèse, une vocation œcuménique, c'est-à-dire d'être là, d'entrer en dialogue. Mais vous voyez, par exemple, parmi les médecins qui viendront au dispensaire, il y a un pasteur évangélique que nous connaissons bien, qui est médecin lui-même et qui est entré dans le projet.
C'est l'œcuménisme de la charité.
Oui, c'est ça, l'œcuménisme du quotidien, si je puis dire.
On va passer maintenant, Monseigneur Nicolas Brouvet, aux questions de terrain. Alors, on a une première question de Christophe, qui est dirigeant d'une entreprise familiale dans la filière bois.
J'ai été très touché par votre intervention en Corse sur la piété populaire. Et c'est vrai que dans notre secteur viganais, moi je serais intéressé pour que vous veniez, à la limite, vous lancer sur ce sujet. Et voilà, ma question c'est qu'est-ce qu'on va faire dans notre diocèse pour justement peut-être avancer sur ce sujet, repartir au contact de la population dans tout ce qui est expression de notre foi et notre piété dans la piété populaire.
Alors, le propre de la piété populaire, c'est qu'elle vient du peuple, justement. Ça, c'est un des thèmes du pape François, c'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose qui vient de la grâce du baptême, et les gens se retrouvent autour d'une statue, pour une procession, pour un jour particulier. D'ailleurs, ce chef d'entreprise, j'ai béni la statue de Saint-Joseph dans son entreprise. Et donc, je vois bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on a besoin de signes très concrets et puis de laisser parler sa foi de manière facile. C'est ça, la piété populaire.
On a une autre question de Franck, qui est membre de l'EAP, à l'ensemble paroissial du Vigan.
Bonjour, monseigneur. Nous sommes au Vigan, donc un peu un secteur éloigné de Nîmes. Que pensez-vous faire dans les années à venir pour faciliter les échanges dans le diocèse avec donc les lieux reculés ?
Voilà, alors ça c'est une bonne question à travers FIDEO. Donc FIDEO, vous voyez, c'est notre formation. Il y a 400 personnes qui participent en 80 cénacles. Et là, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un prend la balle au bond d'une initiative diocésaine, eh bien, du coup, ça nous relie. Or, au Vigan, il y a plusieurs cénacles. Et donc, l'idée de FIDEO, c'est de pas tout faire à Nîmes, mais c'est justement de faire des cénacles dispersés. Et ils ont bien joué le jeu. Et donc, c'est ça qui fait notre lien.
On a une dernière question de Geneviève de la paroisse Le Gros du Roi, l'ensemble paroissial d'Aigues-Mortes.
Bonjour, monseigneur. Voilà, je voulais poser une question par rapport à l'année jubilaire et connaître les propositions communautaires qui sont faites au niveau du diocèse d'invitation, d'action communautaire en lien avec le jubilé.
Voilà, alors donc on a plusieurs pèlerinages au cours de cette année. Il y a eu Rome il y a quelques semaines avec la province ecclésiastique, la province de Montpellier. Il y a le pèlerinage à Lourdes qui sera prêché sur le thème du jubilé. On emmène 150 jeunes du diocèse à Rome pour le jubilé des jeunes.
Et puis
cet été. Et puis un grand pèlerinage diocésain à Saint-Gilles. Alors là, donc c'est le 30 août. Chacun part de là où il est, de là où il veut. Et puis on se retrouve à Saint-Gilles, donc au pied de cette magnifique abbatiale de Saint-Gilles, grand lieu de pèlerinage du Moyen-Âge, pour le jubilé. Voilà, donc ça c'est une manière toute simple de faire. Et puis il y a deux lieux jubilaires, Rochefort-du-Gard, Notre-Dame de Grâce à Rochefort-du-Gard, et puis la cathédrale, où chacun peut faire un pèlerinage. Mais j'ajoute que ce qui est prévu dans le jubilé, c'est que chaque communauté puisse donner des signes d'espérance. Voilà, et donc, je renvoie aussi la question aux communautés et puis aux baptisés. Comment est-ce que dans leur vie, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur paroisse, eh bien, ils donnent des signes concrets d'espérance pour le monde.
Alors, merci pour cette transition vers la dernière question de cette émission, puisque on s'apprête déjà à rentrer dans le carême, mercredi des cendres. Comment vivre ce carême en pèlerin d'espérance, le thème de ce jubilé ?
Oui, le carême, c'est vraiment le temps de l'intériorité, le temps où on se pose justement, parce que dans une marche de pèlerin, il y a aussi le moment où on s'arrête. Et c'est ça qui nous manque dans nos vies trépidantes, dans le train-train du quotidien, dans une vie parfois à la surface des choses. Eh bien, il faut s'arrêter. Et comme Marie, regarder les événements, les conserver dans son cœur, et avec l'Esprit Saint, prendre le temps du discernement, prendre le temps de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, c'est ce que je souhaite pour les fidèles qui vont s'engager dans le carême, qui sachent se poser. Merci. Et se poser dans l'Esprit Saint.
Merci pour ce conseil de carême et merci d'être venu sur le plateau de La Vie des Diocèses, Monseigneur Nicolas Brouvet. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nîmes, je vous invite à consulter le site internet -catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
C'était donc de larges extraits de l'émission Vie du diocèse à la découverte du diocèse de Nîmes avec Monseigneur Nicolas Brouvet au micro d'Honorine Grasset de KTO TV.